Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy sur Europe 1.
Les grandes voix, je vous le disais, ils sont tous là dans ce studio, évidemment pour revenir sur l'actualité de ce jeudi. Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, Michel Cotta est bien sûr au rendez-vous. Bonsoir Michel. Bonsoir Laetitia Krupa.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de communication politique, bienvenue également à vous. Et vous qui nous écoutez, vous pouvez réagir bien entendu au 39-21 comme chaque soir. Il y a cette polémique qui monte avec le champion du monde retraité Lilian Thuram, très engagé dans la lutte contre le racisme. Je voudrais qu'on en parle ce soir parce que dans une interview, l'ancien champion du monde est revenu sur les cris racistes dont a fait l'objet l'attaquant de l'Inter de Milan, Romelu Lukaku, le week-end dernier. Des cris de singes qui ont sonné dans le stade et Thuram qui condamne. Il condamne fermement ses comportements. Voilà ce qu'il dit en substance. Il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture française, italienne, européenne et plus généralement dans la culture blanche. L'ex-star des Bleus pour qui il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. De toute manière, ce sont eux qui doivent trouver une solution à leur problème. Nous sommes en ligne avec Vikash Dorasso. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, merci de nous répondre ce soir au micro d'Europe 1. Vous êtes ancien footballeur international, consultant de Yahoo Sport. Selon vous, Vikash Dorasso, est-ce que Lilian Thuram a raison ?
Tout ce qu'il dit est juste. En fait, il y a un problème d'éducation en France. Il faut expliquer l'esclavage, il faut expliquer comment ça s'est passé, comment on a déporté des gens, on les a fait travailler, on a justifié ça. Donc, on a créé à ce moment-là le racisme. Voilà, on a décidé qu'une race était inférieure à l'autre. On les a opprimés, on les a abaissés au rang d'animaux. Pour pouvoir justifier et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Voilà, les cris de singe, c'est histoire de montrer que Lukaku est un animal et il n'est pas l'égal de l'homme.
Sur les cris de singe, Vikash Dorasso, je pense que tout le monde est absolument d'accord. Mais est-ce que Lilian Thuram a raison de procéder ainsi en faisant comme ça, être dans les blancs, dans les noirs, cette généralisation ? C'est quelques blancs, quelques noirs.
Mais c'est toute la société française blanche qui domine le monde. Tous les postes, les hauts postes, c'est les blancs qui les ont, les hommes blancs, et qui dirigent et qui perpétuent cette domination l'homme. Je veux dire, tant qu'on ne change pas ça et tant qu'on n'explique pas comment ça a été construit, je veux dire, aujourd'hui, et moi, toute ma vie, et tous mes copains qui étaient noirs, qui étaient rebeux, on ne trouvait pas d'appartement, on ne rentrait pas en boîte de nuit.
Donc vous êtes vous aussi, Vikash Dorasso, vous généralisez, vous aussi, on est d'accord, ce ne sont pas quelques blancs, quelques noirs.
C'est pas racialiste
de procéder comme ça.
C'est la société, employez les mots que vous voulez, c'est la société qui est construite comme ça. Il faut changer ce modèle, il faut arrêter que les blancs dominent et dominent à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a 12% de blancs à travers le monde et qui discriminent et qui continuent à exploiter à travers le monde, partout.
Mais effectivement, Vikash Dorasso, il y a des blancs qui se sentent supérieurs, comme il y a des noirs qui se sentent supérieurs. Mais
ça ne marche pas dans ce sens-là. Un noir ne peut pas être raciste envers un blanc. Le racisme anti-blanc n'existe pas puisqu'il n'est pas systémique. Il n'a pas été organisé par la société pour discriminer le blanc. Le noir n'a jamais colonisé. Et tant qu'on ne l'apprendra pas, ça, on apprendra ça aux gamins. La colonisation, il faut l'apprendre.
Qu'est-ce que vous répondez, Vikash Dorasso, dernière question. J'insiste, mais beaucoup de voix aujourd'hui s'élèvent pour dire que Lilian Thuram, qui combat le racisme, lui, le combat avec les mêmes armes, c'est-à-dire avec du racisme lui-même. Vous vous inscrivez en faux.
Mais non, mais il a raison. Je valide les propos de Lilian Thuram.
Merci beaucoup, Vikash Dorasso, d'avoir réagi ce soir au micro d'Europe 1. Charles Villeneuve, Michel Cotta, Laetitia Krupa. Charles Villeneuve, vous le connaissez, Lilian Thuram.
Très bien.
Qu'est-ce que vous pensez ce soir ?
Je voulais en faire mon capitaine quand j'ai été président du PSG.
Qu'est-ce que vous pensez de tout cela ce soir, de cette polémique, de ces propos ?
Qu'il le pense, ce qu'il a dit, il le pense profondément, honnêtement. J'en ai parlé pas très souvent avec lui, mais il m'est arrivé d'en parler. C'est son modèle, c'est le modèle, lui, qu'il imagine et du comportement. Quand il dit qu'il y a du racisme, notamment en Italie, dans la société française, en Espagne et dans les stades, c'est vrai, il y a du racisme. C'est vrai qu'en Espagne, je trouve, et en Italie, beaucoup plus encore qu'en France, on entend des cris de singes, etc., à l'égard d'un certain nombre de joueurs. En Espagne, c'est relativement fréquent. En Italie aussi, c'est vrai, c'est un constat, et c'est vrai qu'il faut lutter contre ça, il a raison.
Mais quand il va plus loin, il généralise, et c'est là où le bas blesse.
Il généralise, alors il ne rend pas... Enfin, moi, c'est mon opinion, bien sûr. et d'autres n'auront pas la même opinion. Il ne rend pas tout à fait service à la cause qu'il défend, qui est une cause noble, tout à fait justifiée. Mais c'est un peu simpliste aussi, parce que la plupart des sociétés occidentales maintenant se sont métissées, à juste raison, notamment en France. Et il y a des discours qui sont tenus, notamment par un homme, il n'y a pas très longtemps, il y a 10 jours à peu près, sur l'antenne d'Europe 1, qui est Abdul Malik, qui est un écrivain, qui est un compositeur. Et je trouve qu'il faudrait écouter justement ce qu'il avait dit ce jour-là.
On va l'entendre justement. On va l'entendre justement. Restez avec nous, Michel Cotta, Laetitia Croba. Vous allez nous faire votre lecture de ses propos dans une seconde. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, vos grandes voix qui réagissent à l'actualité. Michel Cotta aujourd'hui, Charles Villeneuve et Laetitia Croba, spécialiste communication politique. Venez les interpeller au 39-21, 50 centimes la minute. La polémique autour des propos de Lilian Thuram, l'ex-star des Bleus. Il est nécessaire, dit-il, d'avoir le courage de dire que les Blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Michel Cotta, je donne la parole dans un instant. On parlait d'Abdel Malik, ce qu'il en dit. Abdel Malik, poète, écrivain, écoutez.
La racialisation, pour moi, c'est pire que le racisme, de mon point de vue. La racialisation, c'est que lorsqu'on pense qu'un groupe ethnique particulier est réduit à « je suis noir, donc je ne pourrais faire que ça, mon champ des possibles, c'est celui-là. Je suis blanc, mon champ des possibles, c'est celui-là, etc. etc. » Et pour moi, ça, c'est dangereux. Il y en a un qui va se croire tout permis, un autre qui va se bloquer. On doit penser et considérer ce qui nous relie tous. Et ce qui nous relie tous, c'est qu'on est des êtres humains. L'idée, c'est de travailler tous ensemble là où on est, à essayer de faire peuple.
Michel Cotta. Qu'est-ce qu'on se dit ce soir
sur les déclarations de Thuram, parce que moi je suis optimiste de nature. Alors j'ai retenu quand même le début de son interview où il dit qu'il faut faire comme en France.
Exactement.
En cas de racisme, c'est-à-dire suspendre les rencontres et renvoyer les joueurs au vestiaire. Ça veut dire éduquer les gens. Donc quelque part, il trouve qu'en France, on essaye d'éduquer les gens. Ça, c'est mon côté optimiste. Mmh. Et le côté pessimiste, effectivement, la généralisation, il ne le sait pas, il ne s'en aperçoit pas, mais c'est un racisme anti-blanc. Mmh. Mais là aussi, je voudrais ajouter que le racisme anti-blanc, au cours de l'histoire, c'est vrai qu'on a infligé à beaucoup de gens, à beaucoup de Noirs, la colonisation, et qu'au fond, quelque part, ils en sont restés là, eux. Et quelque part en France, des gens en sont restés là.
Mais vous n'allez pas jusqu'à dire, Michel, que c'est un...
Oui. Non,
mais
c'est
vous ne dites pas que c'est racialiste, vous ne dites pas que c'est un procédé dangereux pour autant.
Je dis que c'est un racisme anti-blanc. Voilà.
Mais, donc c'est dangereux.
Qui a des racines et des explications.
Laetitia Croba, en plus vous êtes spécialiste communication politique. Oui. Alors la spécialiste communication, que dit-elle?
Moi je dis que c'est l'exemple, un cas d'école d'une communication qui s'auto-détruit, qui est contre-productive. Pourquoi? Puisque en communication, on a un message qu'on doit faire passer au plus grand nombre. Le message, vous l'avez dit Charles, est noble, puisqu'il demande que toute manifestation raciste dans les stades soit sanctionnée par un arrêt du match, et en tout cas, voilà, signalée. Qu'on en prenne conscience. Ce message, il est noble. Bien sûr qu'on a envie de le soutenir dans cette cause-là. Sauf que derrière, il nous parle de blanc comme une entité monolithique. Et là, il s'auto-détruit puisqu'il dit ce qu'il dénonce. Je suis allé sur son site, le site de sa fondation qui s'appelle Éducation contre le racisme. Je cite « Les phénomènes racistes contemporains peuvent être dépassés si nous admettons que l'histoire nous a conditionnés à nous voir tous comme des Noirs, des Blancs, des Maghrébins, des Asiatiques. » C'est une des premières phrases de son site internet. C'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui.
Alors, il combat le racisme, Lilian Thuram, mais il le combat très bien avec du racisme. C'est la quadrature du cercle. On a, pardonnez-moi, Jean-Philippe depuis l'Ain qui nous appelle ce soir. Bonsoir à vous, Jean-Philippe. Merci d'être au micro d'Europe 1. Qu'est-ce que vous dites, vous? Il faut dénoncer le racisme, ça, là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Mais il faut aussi avoir la manière.
Je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est contre-productif. Moi, j'ai une petite start-up dans le numérique. On embauche des gens, non pas par la couleur de leur peau. Et on travaille avec des gens qui travaillent en Afrique, en Ukraine et autres, par rapport à leurs compétences. Donc, j'ai l'impression d'être peut-être dans son même monde. Alors, je fais partie des gens qui ont été dans des stades. Alors, ma famille, on est originaire de la Charente-Limousine depuis le 15e siècle. On faisait du bœuf limousin. Donc, on peut dire qu'on est ce qu'on appelle des Gaulois, des vrais de vrais. Mais franchement, je n'ai pas l'impression d'être dans le même monde que lui. Je fais partie des gens qui ont été dans les stades et qui sont sortis quand je voyais qu'on balançait des bananes à des gens qui n'étaient pas de la même couleur que moi. J'ai horreur de ça. Et il y a une grande majorité de Français qui sont comme moi.
Ouais. Charles Villeneuve.
Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est du contre-productif totalement. Parce qu'en gros, le combat de le racisme, en mettant des arguments qui sont exactement ce qu'il
dénonce,
ce qu'il combat.
Il faut savoir que Lilian est fondamentalement sincère, qu'il combat réellement le racisme, qu'il va dans des groupes scolaires et notamment aussi des stades où sont rassemblés des enfants, des jeunes gens, des adolescents, et qu'il leur explique, souvent j'ai assisté à l'une de ses interventions, avec beaucoup d'intelligence justement ce qu'est le racisme. Mais sa déclaration-là, et c'est en cela qu'il ne rend pas service à sa cause, va trop loin.
Oui, mais disons qu'il sape sa légitimité. Non, mais d'accord, parce qu'on a envie de croire que Lilian Thuram combat le racisme et qu'il se pousse en imitant.
Moi, je comprends la réaction de la LICRA, hein, puisque la LICRA dit dès qu'on définit les individus en fonction de leur couleur de peau, on fait du racisme. Ce que je veux dire, c'est que... Et c'est vrai, donc je vois bien le racisme anti-noir, mais je vois aussi que des Blancs et d'autres... ont cru, à un moment donné, dominer le monde, puisqu'il y a même eu des Blancs allemands qui pensaient dominer les autres Blancs. Alors,
Bon, merci Jean-Philippe d'avoir réagi au micro d'Europe 1. On se retrouve, nous, dans un instant.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir, la suite avec Nathalie Lévy et les grandes voix ce soir autour de la table, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Vous pouvez bien sûr venir poser vos questions aux grandes voix, 39-21, c'est le standard, 50 centimes la minute.
Avec des partenaires sociaux qui se sont succédés aujourd'hui, encore pendant 2 jours à Matignon, pour un deuxième cycle de concertation. Sur quoi ? Sur le futur système universel de retraite. Enfin, c'est pas gagné, hein. On n'y est pas, on n'avance pas, on a assez peu d'éléments sur la méthode, sur le timing, sur le calendrier. Cette réforme, la seule chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la seule chose qu'on sait, qui est une certitude, c'est qu'elle est hautement inflammable.
Oui, c'est une réforme ambitieuse qui vise la quadrature du siècle. C'est un chantier périlleux, c'est vrai. Il le sait d'ailleurs, le président, c'est la raison pour laquelle il le met au bout de 2 ans, 2 ans et demi, parce que c'est la mère des réformes. Et bien évidemment, quand je dis que c'est la quadrature du cercle, il faut aligner toutes les retraites. Il y a quand même 42 régimes spéciaux, c'est-à-dire supprimer ces régimes spéciaux, rétablir la dimension financière du système d'ici 2025. Ça fait partie de la quadrature du cercle. Comment, en allongeant la durée de vie au travail. Vous connaissez le dessin de Follon avec le funambule au-dessus d'une crevasse. Bon, ben, c'est Emmanuel Macron au-dessus d'une fausse politique. Ah. Et je trouve
une
que...
Une fausse.
Oui, F-O-2-S-E. Voilà. Ne fais pas ton Thuram.
Mais finalement c'est pas mal à l'exercice auquel je viens d'assister, puisque vous dites c'est complètement touffu, on n'y comprend rien, et vous le résumez en une phrase, Charles. Donc finalement, on sait bien où va Emmanuel Macron.
Oui,
c'est juste dans la méthode qu'il a changé.
Charles a quand même parlé de quadrature du cercle.
Oui, c'est ça, c'est périlleux. Non, je veux dire, je comprends ce qu'elle dit, Nathalie. Si vous voulez, ce qui est flou, c'est flou. L'agenda, il est flou.
C'est l'agenda.
La méthode qu'on va utiliser, elle est floue.
Bah oui.
On ne sait pas très bien. Et donc, c'est à partir de ce flou plus flou que Nathalie dit,
la méthode,
on sait pas très
là,
bien.
Là, tous les médias, depuis ce matin, pour le coup, les éléments de langage ont vraiment bien fonctionné, puisqu'on entend depuis ce matin négociation, concertation.
Ah bah, oui. Ah bah ça, c'est sûr. Mais ça fait déjà 18 mois, pardonnez-moi, Laetitia Krupa, qu'on discute.
Mais alors, attendez, quand même. Non,
je veux bien qu'on parle sur la méthode.
Non, mais Laetitia, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que... Justement, la concertation, c'est l'aspect, si vous voulez, le changement. Quand il dit « j'ai changé », bien évidemment, il tire l'enseignement des gilets jaunes.
Je veux bien qu'on dise qu'on comprend rien en retraite, mais je suis sûr que tous les Français comprennent deux choses.
Ils savent très bien comment ils vont être mangés.
La première, c'est que la durée de vie s'allonge et que la durée de vie en retraite s'allonge. Et la deuxième, est qu'on a l'âge de départ à la retraite le plus bas d'Europe. Alors, donc ils comprennent quand même qu'il y a quelque chose à faire.
Voilà. Ça, c'est sûr.
Ils savent pas quoi, ils sont...
Ils savent pas comment,
et que l'âge pivot à 64 ans est remis en cause.
Bien sûr. Voilà. Mais alors, Christophe, qui a 55 ans...
Parle le chef de l'État.
Au G7 à Biarritz. Christophe, depuis la Haute-Marne, nous appelle. Vous avez 55 ans, vous, Christophe. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et donc, vous approchez de la retraite ? Je fais mes quelques secondes. Ça dépend en quel régime il appartient.
C'est dans le leader, et il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est vrai qu'on parle de débat, et la question que moi je me pose, c'est quel est le débat dont on parle ? Parce que pour qu'il y ait concertation, il faudrait que sur la table soient mis les points de discussion. Et aujourd'hui, on attend toujours des précisions sur
Edouard Philippe a dit...
Ça va l'être, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites ? Quel est votre emploi ? Vous êtes...
Je suis chef d'entreprise. Ah, et j'ai eu une carrière de cadre pendant 20 ans. Et je suis au RSI maintenant. Et effectivement, l'inquiétude que je... Bon, alors, en ce qui me concerne, je pourrais passer à travers les gouttes parce qu'effectivement, si la réforme est appliquée à partir de 2025, avec longue carrière, puisque je cotise depuis l'âge de 17 ans, je pourrais partir effectivement un peu plus tôt. La question, là, moi, je me pose, ce n'est pas pour moi à titre personnel, c'est effectivement plutôt pour les gens qui m'entourent. Et j'ai été effectivement dans les premiers à soutenir le projet d'Emmanuel Macron avec En Marche. Je m'en suis un peu éloigné parce qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se posent à moi. C'est quel est l'objectif? Est-ce que c'est de mieux vivre ensemble dans notre pays? Est-ce qu'au niveau social, on veut plus d'égalité véritablement? Ou effectivement, est-ce qu'on tire tout vers le bas, vers du privé, vers effectivement des retraites à répartition ou des par capitalisation? La répartition est effectivement quelque chose depuis la Seconde Guerre mondiale qui est effectivement quelque chose qui nous portait. On cotisait tous pour un peu l'équilibre de ce système pour les plus démunis. L'inquiétude, c'est ça. Qu'est-ce que ça va devenir?
Je crois qu'on peut rassurer quand même sur la répartition. On peut rassurer sur la répartition. Sur il n'est pas question de, pas question de toucher à la répartition. Simplement, moi, je me faisais le calcul du nombre de réformes sur la retraite depuis le début de la Ve République. Alors, il y en a beaucoup. Et au fond, toutes les fois, on dit que c'est un petit pas.
Oui. Bon.
Et je crois que dans ces matières, peut-être le volontarisme ne suffit pas et qu'on est contraint au petit pas. Et que peut-être la réforme telle que l'a envisagée Macron était trop ambitieuse. C'est-à-dire à la fois finir tous les régimes, aligner tous les régimes, à la fois sur la durée de cotisation, oui, etc. Si j'en sors un petit pas, après tout, ce sera...
Il y avait la diplomatie du petit pas, il y a maintenant les réformes des petits pas.
Juppé avait essayé de le faire en 95, la rue, voilà. En fait, l'histoire de la réforme des retraites, c'est l'histoire d'une reculade politique pendant 25 ans face à la pression de la rue.
Constant.
Mais attendez, parce que la rue, justement, la rue, vous y faites référence, Laetitia Krobat, parce que la prochaine étape, c'est quoi, Charles Villeneuve? C'est à la fin du mois de septembre, le rendez-vous est pris avec les Français. Ils vont être sollicités dans cette étape.
C'est très bien, ça.
C'est très bien, oui, mais sauf que, voilà, la politique des petits
gens... Il faut concerter ou pas?
Tout ça est passé... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tout ça est passé au filtre de l'enseignement des Gilets jaunes. Et c'est à partir de là qu'il prend son virage sur la concertation. Avant, c'était l'accélération à la charge. Hein. Et puis là, maintenant, c'est un peu plus lent. C'est comme dit Michel, les petits pas.
C'est ça. Voilà. Et c'est la restauration de l'image du chef de l'État. C'est la restauration de son image. Oui. Là, on est dans une séquence
séduction. Exactement. Pardonnez-moi de vous dire, puisqu'on voit très bien que les Français reprochent à Emmanuel Macron de ne pas faire assez de réformes. Et quand on en fait une, quand il essaye d'en faire une, on lui reproche aussi.
Oui, mais là, du coup, il envoie deux messages, le courage et le respect de l'opinion publique des corps intermédiaires qu'il redécouvre.
On va voir, tant mieux. La restauration de son image.
Évidemment.
Exactement. On va voir, en tout cas, les concertations commencent. Merci beaucoup à tous les trois, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa.
Et vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1.